Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LNFM. Vous écoutez La Clé des Champs, l'émission de la communauté de communes Aunis-Sud qui vous emmène chaque mois à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la culture sur notre territoire. Ce mois-ci, préparez-vous à une émission qui vous fera voyager dans le temps. Nous recevons Julien Cuvillier, archéomusicologue de renommée internationale, qui sera en résidence sur Aunis-Sud du 15 au 21 juin. Avec ses collègues archéomusicologues, il fera résonner le passé à travers la reconstitution d'instruments anciens, de concerts, d'échanges et même la création d'un musée virtuel. Une initiative aussi originale que passionnante, mêlant archéologie expérimentale, histoire de la musique et inspiration venue de la pop culture. Nous retrouverons Héloïse qui est allée à sa rencontre. Puis, on partira sur les sentiers de Chambon, où Julie a suivi une rando-carto originale dans le cadre du programme La Science s'affuse, porté par le réseau des bibliothèques Aunis-Sud. Une belle manière de mêler culture, science, environnement et curiosité locale. Ensuite, notre rubrique Zoom Sur mettra à l'honneur le Brass Festival avec son directeur artistique Clément Saunier. Un événement cuivré, festif et musical qui s'annonce haut en couleur. Et comme toujours, nous terminerons avec l'agenda culturel d'Aunis-Sud avec des rendez-vous à ne pas manquer cet été. Restez bien à l'écoute, on commence tout de suite avec Héloïse et l'univers fascinant de l'archéomusique.
Et bonjour à la belle équipe d'archéomusicologues. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre travail au PRIAE, ainsi que nous dire ce qu'est l'archéomusicologie?
Je m'appelle Julien Cuvillier, je suis archéomusicologue, directeur du pôle de recherche, d'interprétation et d'archéologie expérimentale. Alors qu'est-ce que l'archéomusicologie? Eh bien c'est une discipline à la croisée des chemins entre l'archéologie et la musicologie, et qui se consacre à l'étude des pratiques musicales dans l'histoire à partir de différents types de témoignages. Alors tout d'abord, on va avoir le mobilier archéologique, c'est-à-dire les objets découverts lors de fouilles et qui sont liés à des instruments de musique ou encore à des pratiques sonores. Ensuite, on va voir les sources iconographiques, comme des fresques, des sculptures ou encore des peintures représentant des instruments ou des scènes musicales. Et enfin, on va avoir donc les sources scriptuaires, c'est-à-dire des textes qui mentionnent les instruments ou des pratiques musicales. Alors dans certains cas, parfois, lorsque les données sont réunies, il devient possible, grâce à l'archéologie expérimentale, de reconstituer des instruments anciens et de retrouver ainsi des sonorités millénaires. Et ça, ça fait partie vraiment de, je dirais, du Saint Graal, en fait, de notre métier. C'est vraiment quelque chose d'assez chouette.
Alors, vous avez deux casquettes entre votre métier d'archéomusicologue et le métier de numérisation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre double casquette?
Alors, Audrey et moi avons deux casquettes. La première, celle d'archéomusicologue spécialiste des cordophones de l'Antiquité du premier Moyen-Âge, notamment la lyre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet instrument, c'est celui que l'on retrouve au sommet des kiosques de centre-ville ou encore l'instrument joué par Assurance Torix dans la BD d'Astérix. La deuxième casquette est celle de direction et de présidence du PRIAE, mais qui nous conduit à diriger des missions scientifiques, des opérations de terrain et différentes campagnes à l'international en collaboration avec des professionnels du monde entier. Et ça, depuis le musée de Cologne, le musée d'Édimbourg, en passant par la jungle du Quintana Roo ou encore le désert égyptien d'El Fayoum. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans notre travail, parce que par-delà notre domaine de spécialisation, eh bien ça nous ouvre en fait à un domaine beaucoup plus large, que ça soit sur le terrain temporel ou le terrain géographique. C'est vraiment passionnant. Et puis c'est une aventure qu'on vit en famille avec nos deux enfants qui nous accompagnent dans toutes nos aventures. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous passionne beaucoup. Ouais.
Vous avez également fondé la Lyre Academy. Comment concevez-vous votre travail d'animation, notamment auprès du jeune public?
Alors, d'une façon générale, nous venons d'aborder la question scientifique. Mais notre travail s'articule entre la science, l'artisanat et l'art, en s'appuyant sur trois valeurs fondamentales: étudier, reconstituer, transmettre. Alors, l'artisanat, et plus particulièrement l'archéologie expérimentale, nous permet de reconstituer des instruments anciens à partir de données issues de la recherche, et pour cela, nous avons créé avec Audrey l'atelier Scald, un atelier de lutherie spécialisé dans la facture instrumentale, et plus particulièrement la fabrication de lyres de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Alors, notre travail ne se limite pas à la facture instrumentale, puisqu'on a également très vite été sur le terrain de jeu de l'enseignement. Et après l'introduction de la lyre dans les conservatoires en 2014, dont l'enseignement nous a été confié pendant plusieurs années, eh bien nous avons créé la Lyre Academy. C'est une structure qui propose des cours à distance de lyre, mais également des locations d'instruments, des stages, des masterclass, et ce tout au long de l'année. Alors, dans le cadre de notre démarche de transmission et au-delà de la Lyre Academy, nous proposons des conférences, des concerts, des expositions, des interventions en université, en collège, mais aussi auprès des plus jeunes. Alors, ce sont des formats que nous apprécions énormément, d'autant plus que bien souvent, nos enfants nous accompagnent et expliquent eux-mêmes, avec leurs mots d'enfant, eh bien, les aventures qu'ils vivent à nos côtés et à travers le monde. Cette fois-ci, notre programme se basera sur de grandes histoires issues de différentes mythologies, afin d'offrir un aperçu de la vision du monde propre à ces cultures anciennes. C'est une approche qui s'articule autour de la musique, bien sûr, et sur la présentation d'instruments reconstitués grâce à l'archéologie expérimentale, mais aussi de différents objets historiques que nous proposerons aux enfants de manipuler afin de leur faire découvrir ces cultures millénaires et ancestrales.
Vous avez collaboré avec John Kenny notamment. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail ?
J'ai eu le plaisir de mener de nombreux projets avec John Kenny, que ce soit avec l'ensemble The Dragon and the Dove, commandé par le Musée Royal de Marimont, ou encore Antica Arcana, formé à la demande de la Fondation du Patrimoine. En plus d'être une personne d'une grande générosité et profondément inspirante, John est un véritable pionnier. C'est un tromboniste de renommée internationale, mais c'est aussi le premier humain, depuis 2000 ans, à avoir soufflé dans un carnix. Il s'agit d'un instrument antique assez impressionnant que je vous invite à découvrir à l'occasion de l'un des événements à venir. Alors notre collaboration s'étend de la composition à la création de spectacles, où la musique antique rencontre la musique contemporaine. Voilà, c'est une musique fusion. Alors c'est une magnifique amitié, un duo artistique qui me tient profondément à cœur et je suis vraiment très heureux de pouvoir concevoir avec lui de nouveaux projets chaque année. C'est vraiment quelque chose de vraiment chouette. Ouais.
Vous travaillez également à l'étranger. Quelles missions ont été les plus marquantes pour vous ?
Au fil des années, nous avons eu l'opportunité de travailler sur de nombreux chantiers archéologiques et de diriger différentes missions et opérations de terrain. Alors c'était des actions qui étaient parfois très éloignées du domaine musical. Comme par exemple l'inventaire digital du trésor de Trébris, du trésor de Bayeux, ou encore la numérisation de la bague de l'évêque de Lyon, qui appartient au trésor de Cluny, ou encore la découverte d'Inveresk en Écosse du Nord, ou encore plus récemment dans la jungle du Quintana Roo, afin d'étudier le patrimoine maya et numériser la pyramide royale de Kurun Lynch. Enfin bref, cette pluridisciplinarité, elle nous a conduit à être régulièrement sollicités pour mener des missions d'inventaire, par exemple, comme celle de Saint-Saturnin-du-Bois.
Pouvez-vous nous parler de votre travail de numérisation au site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois et le projet de composition de musée numérique ?
Le projet en cours porte sur la numérisation 3D d'une collection de 10 artefacts d'intérêt patrimonial, incluant notamment des monnaies, des fibules, des bijoux datant de la période romaine jusqu'à l'époque mérovingienne. L'objectif est de développer un musée virtuel qui permettra au public de découvrir ce patrimoine exceptionnel via une borne tactile et des tablettes utilisées par les médiateurs culturels. Ce dispositif constitue une véritable solution de valorisation patrimoniale d'autant plus précieuse qu'il n'existe à ce jour aucun espace muséal sur le territoire permettant de présenter ces objets au public. De plus, ce musée virtuel pourra être enrichi au fil des campagnes futures avec de nouveaux artefacts numérisés et pourquoi pas à terme être doté d'interfaces interactives pour offrir au public une expérience encore plus immersive.
Merci beaucoup, Julien Cuvillier. Nous rappelons que nous allons vous retrouver au site archéologique à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie le 15 juin. Et vous allez mener un projet d'éducation artistique et culturelle avec les écoles de Saint-Saturnin-du-Bois. Donc entre le 15 juin et le 21 juin. Nous vous retrouvons également au cinéma Le Palace le 19 juin et lors de la fête de la musique le 21 juin à Landry.
Alors nous tenons à profiter de cette émission pour remercier les équipes de Saint-Saturnin-du-Bois et également les équipes de la communauté de communes de Honis-Sud pour ce beau projet, ainsi que tous les partenaires et soutiens de cette belle aventure. Et nous souhaitons longue vie à ce projet pluriannuel et nous espérons que vous serez nombreux à venir nous rencontrer à l'occasion de ces différents événements. Voilà, je vous dis à bientôt.
Nous allons maintenant écouter un extrait de la production des archéomusicologues.
Oh, Clévoûte Bamoren, Zonchal Radino Epona, Oh, qu'on en fleurir en Awen. Ken Aken A Quelet Kemendo Vervel
Et Forta Celi Et Voca Love.
Merci Héloïse pour cette passionnante immersion dans le monde de l'archéomusique. On rappelle que Julien Cuvillier sera en résidence du 15 au 21 juin avec plusieurs temps forts à ne pas manquer. Le dimanche 15 juin, lors des journées européennes de l'archéologie à Saint-Saturnin-du-Bois. Le 19 juin au cinéma Le Palace pour la projection du documentaire du Pacte Gaulois. Et enfin le 21 juin pour une journée festive à l'André à l'occasion de la fête de la musique. Une belle occasion de découvrir la musique autrement, en lien avec l'histoire, la science et beaucoup de créativité. On chausse à présent les baskets pour suivre Julie à Chambon, où le 26 avril dernier avait lieu une balade cartographique dans le cadre du programme La Science s'affuse, porté par le réseau des bibliothèques ONIS Sud. Une randonnée pas comme les autres, mais qui, malgré la pluie, a rassemblé bon nombre d'intéressés. Entre observations, échanges et cartographie participative, les participants ont pu apprendre en marchant, tout en redécouvrant notre patrimoine naturel de proximité.
Le 26 avril, 33 personnes ont participé, malgré la pluie, à une passionnante rando-carto organisée dans le cadre de l'opération La Science s'affuse, qui est la programmation scientifique du réseau des bibliothèques ONIS Sud et dont le thème 2025 est la cartographie. Je vous laisse découvrir ce dont il s'agissait.
Encore une fois, merci à tous d'être venus malgré ça. Donc c'est chouette, ça fait plaisir d'avoir autant de monde pour cette balade. On regarde un projet scientifique et culturel qui est financé par la Mendes France. Donc aujourd'hui, le but, c'est de faire une rando-conférence. Donc la personne pour ça, c'est Thibaut Preux, ici, que je vais vous laisser présenter en deux, trois mots.
C'est parti. Donc Thibaut Preux, je suis ancien chercheur en géographie à l'Université de Poitiers. Et je travaille sur les transformations des paysages agricoles et notamment des paysages de bocage. Je fais ma thèse sur les paysages de Normandie, je suis normand, d'où le magnifique temps qui ne me fait absolument pas peur.
Merci beaucoup.
C'est de ma faute.
Voilà. Donc merci. Donc la balade s'est faite conjointement aussi avec, comme j'expliquais, un partenaire local. Donc peut-être essayer de dire deux mots pour l'association.
Voilà, donc Philippe Baron, je suis président de l'association Bonchamp Bonne Haie. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, il y a un jeu de mots avec les habitants de Chambon qu'on appelle les Chambonnais. Donc un bon Chambonnais doit appartenir à bon Chambonnais. On existe depuis 27 ans et on plante chaque année, bon an, mal an, quelques centaines de mètres de haies. On est à peu près à 25 km de haies plantées depuis ces 27 ans.
Et donc pour ma part, donc moi je m'appelle Karen Maillon, donc je travaille avec la communauté de communes de Nissus sur tout ce qui est espace naturel sensible donc, et sur aussi la biodiversité de manière générale, donc l'accompagnement des communes sur tous leurs projets de biodiversité. Je laisse ma collègue se présenter.
Donc réseau des bibliothèques ONIS Sud, hein, donc c'est 17 bibliothèques réparties sur le territoire qui travaillent en réseau. Vous pouvez vous inscrire à la bibliothèque de Chambon qui nous accueille aujourd'hui. Alors merci beaucoup d'accueillir la rando d'aujourd'hui.
Eh bien super, donc on va laisser Philippe nous guider et puis on va pouvoir tous y aller. Donc si vous n'êtes pas équipé, on peut s'équiper et c'est parti.
Alors au cours de la balade, nous avons profité de la présence de Thibaut Preux pour en apprendre plus sur l'histoire des haies.
Alors souvent, on a tendance à penser que les haies, c'est quelque chose de moyenâgeux. En fait, pas du tout. Hein, les haies, telles qu'on les connaît aujourd'hui, en tout cas dans leur forme et dans leur fonction, c'est des haies qui sont assez récentes, puisqu'elles datent plutôt de l'époque moderne, donc du 19e. Alors, est-ce que vous savez pourquoi les agriculteurs du 19e siècle se sont mis à planter des haies à un moment donné? Ouais, il y avait deux fonctions. Hein. Donc la première, c'est une fonction agronomique, ou d'aménagement de l'espace, ou d'organisation de l'espace. C'est que après la Révolution française, on va abandonner une vieille coutume en France qui était la pratique de la veine pâture. Qu'est-ce que c'est que la veine pâture? C'est tout simplement l'idée que sur une commune, après la récolte des céréales sur les champs, on doit pouvoir laisser les bêtes circuler librement pour qu'elles puissent se nourrir des repousses, des regains, etc. Ça permettait notamment à des populations très pauvres qui habitaient dans les campagnes de survivre en gardant quelques têtes de bétail. Donc ça, c'est une pratique qui était obligatoire, c'est-à-dire que les seigneurs s'assuraient que cette pratique de la veine pâture était respectée. Donc il ne fallait pas qu'il y ait d'obstacles, évidemment, il fallait que les bêtes puissent circuler librement. Avec la Révolution française, on va progressivement abandonner ce système de la veine pâture et les agronomes du 18e vont commencer à dire qu'il faut séparer les activités d'élevage des activités de culture. Et donc pour séparer les deux, physiquement, pour éviter que le bétail vienne boulotter les semailles ou les plants, et bien pour séparer les deux, on va inventer cet outil formidable qui est la haie.
Philippe Baron de l'association Bonchamp Bonne Haie nous a quant à lui apporté des informations sur les actions de l'association.
On essaie aussi à Bonchamp Bonne Haie de planter un peu sur trois strates. On fait en gros une strate arbustive, mais des petits arbustes. Une strate après plus avec des arbres de plus haut âgé, comme ici un érable. et des intermédiaires comme des pommiers, beaucoup de fruitiers, de pommiers, pruniers, etc.
Je laisse la conclusion à une des participantes de cette rando carto.
Très contente d'avoir pu participer
à cette
réunion. C'était très bien.
On enchaîne avec notre rubrique Zoom sur, et aujourd'hui on va parler d'un événement qui va mettre du souffle dans votre été. Le Brass Festival, qui revient en Onis-Sud avec une programmation généreuse, festive et cuivrée. Renaud, c'est à toi.
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Clément Saunier, trompettiste internationalement reconnu et programmateur artistique du Surger Brass Festival, un événement devenu incontournable pour les amateurs de cuivre. Il nous dévoile les coulisses de cette nouvelle édition. Bonsoir Clément et merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Pouvez-vous nous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, le Surger Brass Festival en quelques mots, comment est né ce festival et quelle est son histoire?
Alors en fait, ce festival qui va voir sa 9e édition arriver en 2025, là, en fait c'est né d'une idée que j'avais eue pendant les académies de cuivre et percussion de Surger. C'est un événement qui, lui, a 27 ans. Et dans ce genre de stage de cuivre, on essaie aussi d'organiser des concerts, souvent, des événements. Et en fait, j'en avais un peu marre qu'on puisse pas accueillir des artistes ou proposer au public d'écouter de la musique ou d'écouter les artistes qu'ils aiment bien dans de très bonnes conditions. Donc, c'était toujours, comme on dit, des concerts un peu organisés avec peu de moyens et peu de communication, voilà. Donc, il y a un moment, j'ai fait ce constat et j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'organisation La Spedidam qui montait un réseau de festivals à cette époque-là, donc il y a plus de 10 ans maintenant, hein, et de les convaincre de monter un festival à Surger en leur proposant cette thématique autour des cuivres. Et bah, ils ont accepté, et donc on a fait partie pendant les 5 premières années du festival de ce réseau de festivals Spedidam, qu'on a quitté depuis, hein, pour voler de nos propres ailes, mais ça a permis en fait de structurer tout ça, de donner une visibilité nationale, même internationale au festival, d'accueillir les gens dans de très bonnes conditions, qu'ils puissent écouter les concerts, d'assurer toute une partie technique, logistique, et puis d'asseoir la communication, c'est ça le plus important dans ces choses-là, de payer correctement les artistes, voilà. Après, le projet s'est développé, on va y revenir je pense, mais en tout cas l'idée, le postulat de départ, c'était proposer quelque chose de qualitatif et de sérieux au public de Surger, et puis après des environs, puisque ça s'est considérablement élargi.
Justement, vous pouvez nous parler de son évolution?
Et oui, alors en fait, on a tout de suite mis un cadre qui était ce festival, il est subventionné par de l'argent public, hein, bien sûr, par des collectivités, la ville, le département, puisqu'il fait aussi partie des sites en scène, la région, et puis après, il y a pas mal de mécénats, bien sûr, et la billetterie. Mais ce festival, on s'est dit, bon, ce qui serait super, c'est de pouvoir proposer à tous les gens des concerts gratuits en après-midi, mais de grande qualité, professionnelle, voilà. Et par contre, ben, voilà, pour qu'un festival puisse exister, hein, il faut, surtout par les temps qui courent, il faut vendre des billets, voilà, et faire des soirées payantes. Donc l'équilibre s'est trouvé petit à petit comme ça, en faisant des après-midi avec des styles très différents. Moi, j'ai toujours voulu ouvrir au maximum pour faire découvrir aux gens la famille des cuivres qui est présente dans quasiment tous les styles de musique. Ça, c'est intéressant. Et puis en soirée, on a des artistes un peu plus connus, plus un peu plus musique actuelle, voilà, avec des chanteurs, mais qu'on des cuivres en section dans leur groupe souvent, ou un artiste cuivre dans leur spectacle. Donc c'est comme ça que ça s'est construit en fait artistiquement.
Quelles sont les particularités de cette édition? Quels artistes ou formations sont à l'affiche cette année?
Alors, cette année, on a bien sûr les artistes en soirée. Alors, les grandes têtes d'affiche, c'est Pascal Obispo qui fait une tournée anniversaire pour sa, 30 ans de carrière. Donc là, il joue avec un trompettiste qui est super, qui s'appelle Alexandre Hérichon, qui fait de l'impro, du lead, qui est formidable. Donc on est très content de pouvoir accueillir ce concert à Surgel, parce que c'est un concert qui a été donné dans les plus grandes salles de France et même à l'étranger. Donc on est très heureux de cette réussite. On a aussi le groupe Cassav le samedi soir, le 26 juillet. Ça, Cassav, c'était un de nos regrets de l'année Covid, parce que moi je m'étais dit en tant que programmateur que on allait essayer de jouer le jeu et de reporter tous les concerts qui n'avaient pas pu avoir lieu à l'époque. Et Cassav, c'était le dernier groupe qu'on n'avait pas réussi à reporter. Et puis là, on a eu un coup de chance. Il faut être patient parfois quand on programme des festivals. Il faut avoir un peu de chance aussi. Il y a des années, c'est possible, d'autres non. Donc il faut voir ça dans un temps un peu plus long. Et puis on a Kali aussi, qui est un chanteur, c'est de la chanson rock, avec une énergie incroyable. Donc ça va faire une belle soirée le 26 juillet, Kali, Cassav. On a une soirée 100% féminine aussi le vendredi 25 juillet avec Clara Isé, qui est une des nouvelles générations des chansons à texte françaises. Et puis on a bien sûr Olivia Ruiz. Alors, ça faisait plusieurs années que j'essayais de l'inviter, puis ça ne marchait pas. Et puis là, c'est musique, pareil, c'est de la chanson, mais avec pas mal d'accents de musique latine. Et puis on a un groupe aussi en première partie de Pascal Obispo le 24 juillet, qui s'appelle Sarab, qui est venu il y a longtemps dans une des premières éditions du festival. Et là, qui vient proposer son nouveau projet, c'est une chanteuse franco-syrienne. Et là, ça touche à la world, au jazz et au rock aussi.
Quelles sont les ambitions pour les prochaines éditions ?
Alors bien sûr, là, c'est la 9e édition, donc forcément on est un peu tourné vers les 10 ans. Tout le monde a fait dans la musique, encore plus qu'ailleurs, je crois, les temps forts sont rythmés par les anniversaires. Voilà. Donc les anniversaires de compositeurs ou les anniversaires de leur décès, de leur naissance. Donc les festivals, on n'y coupe pas. Donc on va essayer pour les 10 ans. De proposer plein de choses. Pour l'instant, on n'a pas touché à l'espace, au plan du festival. On a toujours une grande scène auprès, derrière l'allée, comme on appelle ça, à Surgères. Et puis après, on a la scène gratuite dans les douves du parc. Donc, on va peut-être repenser un peu l'organisation du site et puis essayer toujours de proposer des artistes les plus intéressants et puis des choses un peu originales. Donc voilà, c'est déjà commencé, c'est tout ce que je peux vous dire. On est déjà en train de plancher sur la programmation de l'édition d'après, alors que celle-là n'est pas commencée. Mais c'est comme ça, il faut vite booker des artistes, ou en tout cas montrer un intérêt pour essayer de les avoir. Donc on verra si on a de la chance, mais je l'espère.
Merci Clément d'avoir été avec nous aujourd'hui et bon vent au Surgères Brass Festival.
Effectivement, merci Clément d'avoir été avec nous. Donc on rappelle, c'est le 24, 25 et 26 juillet pour le Brass Festival. Clément, on vous souhaite un excellent festival et on espère que les habitants d'Aunis Sud seront nombreux à vibrer au rythme du Brass cet été.
Merci beaucoup. Ben oui, on attend le public nombreux pour leur faire découvrir tous ces artistes et toutes les musiques. Merci beaucoup.
Et comme toujours, on termine cette émission par notre agenda culturel avec vos sorties à venir jusqu'au mois de septembre. Rendez-vous d'abord le samedi 14 juin à Aigrefeuille-d'Aunis à 15h, à l'espace multiculturel le 4. Vous pourrez assister à une audition des classes de violoncelle du conservatoire Aunis Sud et de l'école de musique de la Petite Aunis. Une belle rencontre musicale enrichie par un programme chant et guitare interprété par la classe de guitare du conservatoire. Le dimanche 15 juin, rendez-vous sur le site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois, à l'occasion des Journées Européennes de l'Archéologie. Une journée exceptionnelle, en partenariat avec les Microfolies de Surgères et en présence des archéomusicologues Audrey Lecorgne et Julien Cuvillier pour faire vibrer le passé en musique. Le mercredi 18 juin maintenant à Surgères, c'est au cinéma Le Palace que ça se passe, avec la projection du documentaire du Pacte Gaulois, suivi d'un échange en présence du musicien et chercheur écossais John Kenny. Le vendredi 20 juin, direction l'église Notre-Dame de Surgères à 18h30 pour le concert de flûte traversière et d'orgue du Conservatoire de musique Aunis Sud. Le samedi 21 juin, c'est la fête de la musique et la commune de Landré voit les choses en grand. Rendez-vous à l'aire naturelle de loisirs à partir de 11h. Vous y retrouverez l'orchestre d'harmonie de Surgères, les ateliers musicaux du CAC, des groupes locaux, une conférence sur l'archéomusique et pour conclure un récital chant et piano à l'église. Bref, une journée festive, conviviale et musicale à ne pas manquer. Le site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois ouvrira quant à lui ses portes pour la saison estivale du 7 au 22 août avec deux temps forts cet été. Le jeudi 17 juillet à partir de 16h avec le traditionnel apéro villa avec la compagnie Loret Dubois et le samedi 2 août pour une balade à vélo suivie d'un spectacle avec la compagnie Les Gaillardes. Durant tout l'été, vous pourrez également profiter de l'exposition grand format Vivre ici, point de vue de Nice Sud de Samuel Buton. Un témoignage photographique de la vie sur le territoire et une exposition libre et gratuite à retrouver sur les murs des hameaux de la commune de Saint-Crépin. En juillet, c'est aussi le mois de la manifestation Partir en livre, avec des animations proposées dans les bibliothèques du territoire. Le programme est à retrouver en ligne sur le site de la communauté de communes. Et puis on rappelle bien sûr les dates du Brass Festival, ce sera le 24, le 25 et le 26 juillet dans le parc du château à Surgères. En septembre maintenant, vous pouvez d'ores et déjà noter la date du prochain festival Sick and Sound. Ce sera le dimanche 14 septembre au départ du centre-bourg de Bouet. Une journée festive et familiale, avec au programme une balade cyclo-musicale de 20 km à travers Bouet, Annay et Vierson, ponctuée de 4 temps musicaux tout au long du parcours. Et puis le week-end du 20 et du 21 septembre, le site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois clôturera sa saison estivale à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, avec une belle programmation. Voilà pour notre agenda culturel de l'été. Comme toujours, toutes les infos, les horaires et les lieux sont à retrouver sur le site onis-sud.fr. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été, riche en découvertes, en musique et en belles rencontres sur tout le territoire d'Onis Sud. Profitez-en bien et à très bientôt. Salut !